cadre du cycle de conférences de la BULAC, d'autres regards sur le monde. Nous allons écouter ce soir notre collègue Michele Bernardini, qui est professeur à l'Université Orientale de Naples, qui est titulaire de la chaire de persan et aussi enseigne l'histoire de la Turquie, et qui est également bien connu en France, puisqu'il collabore avec nous dans l'UMR Monde iranien et indien du CNRS à différents programmes, notamment la publication de la Series Catalogorum dont s'occupe notre collègue ici présente, Maria Schuppe. Michele Bernardini est également membre du Conseil des instituts français à l'étranger et il est membre du Conseil scientifique de la BULAC. Mais c'est aussi un grand connaisseur du monde du livre, qu'il soit manuscrit ou imprimé, et des bibliothèques. Et ce soir, il va nous présenter brièvement un tableau des collections orientales dans les bibliothèques italiennes à Naples et à Rome.
Merci beaucoup, Francis, pour cette présentation. Moi, je suis très content d'être ici, de trouver aussi beaucoup d'amis, mais de vieilles connaissances. Et je commence tout de suite pour vous dire que j'ai choisi Rome et Naples comme bibliothèque parce que j'ai préféré ne pas faire le cadre de toutes les bibliothèques de l'Italie parce que ça aurait été un désastre d'un point de vue de la préparation aussi d'une conférence. Les collections orientalistes en Italie, vous voyez, sont très nombreuses. L'histoire de ces collections reflète l'histoire du pays et ses différentes approches à l'Orient. Elle reflète aussi, disons, les différentes manières de traiter les sujets orientaux, soit qu'ils aient été traités par des religieux, par exemple, surtout dans les périodes plus anciennes, soit qu'ils soient été traités par des, disons, laïcs, ce qui est un terme peut-être un peu inapproprié pour ce public. Voilà, j'ai fait chercher de faire cette carte où j'ai cherché d'inclure toutes les collections principales, mais il y en a beaucoup d'autres. Certainement, Venise est une des plus importantes aussi. Florence est très importante. Turin a une très grande collection de manuscrits, surtout orientaux, mais aussi d'imprimés orientaux. Et j'ai décidé de faire Rome et Naples parce qu'elles ont une histoire assez cohérente l'une avec l'autre, avec des qui peut être assemblée dans un cadre unitaire. Mais je rappelle qu'il y a des textes orientaux à Cagliari en Sardaigne, à Lecce en Puglia ou à Palermo dans la Sicile. Comme je l'ai dit, c'est des institutions souvent très très différentes entre elles. Nous avons des institutions public à caractère national, et c'est là le cas de, je vous fais voir tout de suite que notre ministère des beni culturali et de l'attività culturale et del turismo, tous ces ministères ont des noms très compliqués qu'on pourrait abréger simplement ministère dei beni culturali, mais qui a une section spéciale pour les bibliothèques, mais elle s'occupe surtout des bibliothèques de l'État, c'est-à-dire la Bibliothèque nationale. Toutes les grandes villes ont une bibliothèque nationale, aussi des fois des villes secondaires. Puis nous avons les bibliothèques des universités, qui sont assez importantes, surtout pour les études orientales, et des centres de recherche spécialisés, privés, semi-privés, qui appartiennent à l'État ou appartiennent des fois... sont propriété des associés qui payent pour maintenir ces institutions. On a des institutions religieuses, il y en a vraiment beaucoup, ça c'est une spécialité surtout de Rome, Et beaucoup d'autres institutions, par exemple les institutions étrangères en Italie, ont un poids assez important. Nous avons des une académie japonaise, par exemple, à Rome, qui est très importante, ou une académie égyptienne, qui ont des collections libraires, eux aussi. Dans ce mare magnum, je cherche de faire une histoire et j'exclus toute la partie plus ancienne qui consiste surtout dans les documents des grands archives de Gênes, Florence et Venise qui sont des documents surtout dus au commerce, aux activités plus anciennes des Italiens, aux républiques italiennes. En particulier, Gênes et Venise ont des archives très très importantes qui sont étudiées et ont été cataloguées encore d'une façon assez réduite, surtout celui de Gênes, celui de Venise un peu plus, mais dans le cas de l'archive du Vatican, il y a une collection très ancienne. On a beaucoup de documents, par exemple, d'époque mongole, des lettres, des correspondances politiques. L'archive de Naples a été, qui était très important aussi pour la France parce que c'était un archive qui avait une grande collection sur les Angevins, mais il a été brûlé pour vengeance par un officier naziste pendant la Deuxième Guerre mondiale et toute la partie angevine est presque toute disparue. Donc on a perdu un patrimoine en 1944, tout d'un coup, comme ça. Quelque chose avait été retenu, mais cette partie plus ancienne, certainement, est disparue. Mais ce qui m'intéresse vous dire, c'est que les collections orientalistes plus importantes débutent du XVIe siècle, XVIe, XVIIe siècle. C'est les deux siècles où se développe une grande activité de recherche. Cette activité est surtout vient entreprise à l'époque du pape Grégoire XIIIe, qui est celui du calendrier grégorien pour nous comprendre, mais qui est aussi celui qui fonde le collège des néophytes, qui était destiné à l'éducation des convertis juifs et musulmans, mais aussi il fonda le collège des Arméniens, le collège des Maronites. Tous ces centres deviennent des centres très importants pour les études orientales. Une récente publication de Angelo Michele Piemontese, je vous ai indiqué le titre si ça peut vous intéresser, décrit un peu toute l'histoire des intérêts de Grégoire XIIIe. Et aussi du fait que ce n'est pas seulement le Proche et Moyen-Orient qui sont un objet d'intérêt, mais surtout la première, par exemple, ambassade japonaise qui arrive à Rome, emporte avec soi déjà des premiers documents japonais auxquels vont suivre des nombreuses parties qui vont être unies à la collection plus tard. Là, c'est une très intéressant, c'était une ambassade, on appelait ça l'ambassade des enfants, parce que c'était surtout des enfants qui étaient dans cette ambassade japonaise, mais qui avaient quand même avec eux de nombreux documents qu'ils emmènent en Italie. À l'époque de Grégoire, il y a des personnages extrêmement intéressants. Deux frères, les frères Vecchietti, que Francis connaît très bien parce qu'il en a publié il a publié toute la partie qui concerne les manuscrits qui sont conservés à la Bibliothèque nationale, mais ces deux frères Vecchietti partent pour l'Orient avec des missions diplomatiques et aussi en même temps des intérêts personnels personnels de différents types, et ils recueillent de nombreux manuscrits qu'ils emmènent en Italie. Ça, le cas plus éclatant est celui du Shahnameh qui est préservé à la Bibliothèque nationale de Florence, daté 1214. Donc c'est le premier exemplaire au monde du Shahnameh, du livre des rois de Ferdowsi, qui a servi aussi pour des éditions récentes comme celle de Caligi Mutlaq pour changer complètement la perception du Charnamé, mais qui n'a été découvert qu'en 1978 parce qu'il était mélangé dans d'autres collections. Il avait été confus pour un tafsir, c'est-à-dire une exégèse coranique. Quel est l'intérêt de ce... Pourquoi je vous raconte toute cette histoire? Parce que toute la collection des frères Vecchietti, qui est une collection très remarquable, a été perdue et dispersée dans différentes bibliothèques, y inclut la Bibliothèque nationale de Paris. Et ils avaient été chargés par Grégoire III aussi de faire des recherches de textes. Ces textes, par exemple... Ils font faire, ces frères Vecchietti, des éditions de textes, surtout de textes bibliques. Là, vous voyez, même avec l'insignia du pape, probablement du pape Clément VIII, qui est sur un manuscrit qui vient produit en Iran pour les frères Vecchietti, qui avait probablement la possibilité d'avoir une écriture interlinéaire, et duquel on trouve un manuscrit à Naples, celui que vous voyez en bas en blanc et noir, et celui que vous voyez qui est à la Bibliothèque nationale de France à Paris. C'était des gens particulièrement cultivés, intelligents, et qui avaient une conception aussi très très vivace et vivante de la culture. Un aspect très important, c'est que les frères Vecchietti avaient emmené beaucoup de ces manuscrits pour l'imprimerie Medicea, Stamperia Medicea, qui était au début à Rome et qui avait été fondée par un mathématicien, Giovan Battista Raimondi, qui, avec l'appui justement du pape Grégoire, imprimait des textes en caractère arabe, mais aussi syriaque, et si je me trompe pas, aussi des caractères hébreux, il y en avait quelques-uns. Et il faisait pour les vendre sur le marché oriental. C'était une chose extraordinaire pour l'époque, qui n'aboutit à rien parce que le marché oriental eut beaucoup de suspects pour cette activité. Et en fait, je sais qu'il y a quelqu'un de ces textes que l'on trouve sur le marché encore aujourd'hui au Kuwait. On peut acheter quelqu'un des textes de Giovan Battista Raimondi ou des autres comme ce monsieur Leonardo Parasole qui avait justement publié des évangiles avec toujours la transcription interlinéaire. Mais c'est une entreprise extraordinaire. Giovan Battista Raimondi faillit complètement dans son entreprise. Les deux Vecchietti, les deux frères Vecchietti aussi, n'eurent pas un destin moins triste peut-être. L'un a fini pendant longtemps dans les prisons du Vatican et l'autre est mort à Naples dans la misère. Mais ça, bon... Ça veut dire que cette histoire des études orientales aussi avait des aspects souvent assez négatifs. Des autres ont eu plus de chance, c'est le cas de Pietro della Valle, le voyageur lui aussi, qui a appris beaucoup de manuscrits, beaucoup d'eux ont été emmenés à l'Accademia de Lincei, la première Accademia de Lincei qui a été plusieurs fois réformée plus tard, et les consignés à cet autre grand savant qui était Federico Cesi, qui avait des intérêts naturalistes, disons, mais qui les conservait à sa fois dans la collection. La collection aujourd'hui s'appelle Corsignana, mais elle préserve, si elle a beaucoup de textes orientaux qui sont insérés dans la collection. Une autre collection, on va en parler, a été puis refaite dans les années 20 par Leone Caetani. Quand même un texte très intéressant sur les premiers académiciens de l'INSEE et leurs intérêts orientaux a été écrit par Giuseppe Gabrielli, qui était bibliothécaire à sa fois de l'Accademia dei Lincei. Il y a des positions aussi très différentes dans ce cadre. Le jésuite Athanasius Kircher, par exemple, fonde, qui était déchiffreur de hiéroglyphes et connaisseur de la Chine nestorienne. Donc, qui passait d'un côté à l'autre, mais qui fonde dans le Collegio Romano, c'est-à-dire dans la plus grande collection de travaux jésuites de l'époque, une bibliothèque elle aussi dispersée aujourd'hui, et de laquelle on trouve les morceaux ci et là dans les autres bibliothèques, surtout dans la bibliothèque urbaniana, mais aussi dans la bibliothèque nationale. Les choses de cette période plus ancienne se sont très n'ont pas eu, disons, le même destin peut-être qu'en France, dans lesquelles les manuscrits ont été plus compacts, plus ténus, les textes orientaux étaient préservés tous ensemble. Je ne sais pas, Francis, si vous êtes d'accord.
Oui, mais peut-être parce qu'ils ont circulé, justement.
Ils ont aussi
beaucoup circulé en Italie. Et il y a quelque chose peut-être qu'on peut dire, c'est que dans l'autre partie de la collection Kircher, c'est le musée Kircher, oui, qui est le musée du Vatican, finalement.
Ah oui, c'est ça, justement, le musée égyptien, oui, en plus, oui. Parce que c'est... Naturellement, il y a tout un côté aussi sur les musées qui est très intéressant. Toutes les collections orientalistes étaient liées quand même à des musées ou à des collections particulières. Le même Federico Cesi avait une espèce de Schatzkammer où il tenait ses trésors. Tout ça aussi, quand même, a eu une grande dispersion après. Mais dans le cas du Vatican, ceux qui entraient dans le Vatican rarement en sortaient. Et on a une très importante collection de manuscrits hébreux qui commence beaucoup avant, en réalité, à l'époque de Nicolas Quint, et qui a eu beaucoup de personnages autour d'elle, par exemple Federico Rainaldi et Moncada, qui étaient des grands collectionneurs de textes juifs, arabes et aussi syriaques. Les textes syriaques étaient très... il y avait un grand intérêt. Beaucoup d'eux arrivent à travers Malte. Malte, il y avait beaucoup de... dans les collèges de néophytes, par exemple, Leonardo Abel a été un Maltais qui avait été recruté pour enseigner l'arabe, justement, et le syriaque à Malte. Mais là, par exemple, dans la collection vaticane, il y a dès le début beaucoup de manuscrits en garshuni, de textes très intéressants de ce point de vue-là. Parmi les études arabes, il y a un grand nombre de manuscrits qui entrent dans la collection vaticane. La chose qui est très intéressante, c'est que la majorité des premiers manuscrits qui entrent dans la collection vaticane sont d'origine espagnole ou andalou. Il y a un cas très fameux, c'est celui du Bayad Wariad, c'est le cas plus éclatant, mais les autres cas étaient surtout conséquents au pillage des bateaux corsaires, on peut dire, oui, et qui emmènent de nombreux textes, surtout des Corans qui ont été étudiés par Lévi de la Vida, et en même temps des textes scientifiques, par exemple, on trouve des textes plutôt d'origine persane, déjà d'une époque assez reculée, comme des autographes de Nassir ad-Din Tusi ou d'autres textes plutôt importants. L'histoire, par exemple, du Bayad et Riyad, qui a été récemment réédité une nouvelle fois, est très intéressante parce que on comprend pas bien s'il a été capturé à Tunis par dans une mission de saccage vraiment de la ville, ou s'il est arrivé en d'autres manières, par d'autres voies. Mais c'est un texte qui est peut-être le premier texte illustré que nous connaissons dans le côté nord-africain. Et beaucoup de ces manuscrits sont très intéressants parce qu'ils sont en parchemin, donc ils ont une histoire qui est assez différente de l'histoire traditionnelle des manuscrits orientaux. Et oui, et puis naturellement, il y a les études persanes. Les études persanes sont très intéressantes parce qu'il y a déjà des textes très anciens qui sont des évangiles est pris en époque mongole, qui avait une translittération interlinéaire aussi là, pour la lecture au public, qui est très intéressante parce qu'elle ressemble un peu à la transcription à la translittération de l'encyclopédie de l'islam pour certains aspects. Il y a le point dessus, le point dessous. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la collection s'enrichit beaucoup grâce aux ambassades safavides depuis la fin du XVIIe siècle, le pape justement Clément VIII et plus tard le pape Paul V. Vous voyez là une fresque qui est assez qui est préservée dans le Quirinale à Rome. Vous voyez Robert Shelley qui était l'émissaire du pape avec son frère. qui étaient deux Anglais qui travaillaient beaucoup, surtout en Iran. Cette ambassade est très intéressante parce qu'elle est liée, encore une fois, à l'acquisition de nombreux textes et à la conversion de nombreux persans. Et donc, cet aspect aussi de la conversion suit toujours un peu le destin aussi bibliothécaire. Une partie importante est sur les études éthiopiennes. Surtout, il faut rappeler la figure de ce Johann Pottke qui avait commencé les études surtout du Gez, de la langue Gez. Et certains manuscrits, justement, ont été aussi édités à la Stamperia Medicea. Et beaucoup d'eux sont encore à la Bibliothèque Vaticane. Aujourd'hui, il faut dire que les fonds éthiopiens sont très importants. En Italie, il y en a différents. Un qui est très important est le fonds Conti Rossini, qui est préservé à l'Accademia dei Lincei, et qui est un fonds de, surtout de textes qui ont été saccagés, cette fois-ci, dans le XXe siècle, et non pas par les colonialistes italiens. Les études arméniennes ont une tradition très particulière. Au Vatican, travaillait cette figure importante de Domenico Bassa, qui fut le premier qui créa une imprimerie arménienne et qui imprima des textes en arménien. Vous voyez ici un exemple. Il y en a différents. Cette imprimerie est très à l'avant-garde aussi pour la méthode qu'ils ont utilisée et surtout pour le... Ces caractères ont eu toute une histoire aussi de diffusion, d'achat, de vente à l'étranger plus tard. Les études turques, on peut signaler, l'image est disparue mais c'est pas grave, au début étaient très peu représentées, il y avait 33 manuscrits turcs au XVIe siècle, mais du XVIIe au XVIIIe siècle, la collection s'est largement agrandie, surtout grâce à deux fonds qui sont très importants au Vatican, qui sont le fonds Barberignano de la famille Barberini, une famille noble romaine, et le fonds Rossiano, qui est un autre fonds très grand, qui recueille beaucoup de textes turcs. Les études indiennes sont toujours un peu en arrière par rapport aux autres, mais il y a de nombreux comme manuscrits, surtout ceux en feuilles de palme qui sont datés de 1602. C'est les premiers exemplaires qui entrèrent dans la Bibliothèque Vaticane, mais beaucoup de textes en sanskrit et indo-persan. La sinologie est très importante, bien entendu, surtout grâce aux ouvrages de Juan González de Mendoza qui fait la première description systématique de la Chine en 1585 qui a été plusieurs fois reproduite et republiée. C'est lui qui emmène de nombreux textes qui viennent préserver dans la bibliothèque. Enfin, les Japonais. Le jésuite belge Philippe Couplet, missionnaire en Chine, ramena de nombreux textes après la mission diplomatique de laquelle on a parlé. Et surtout, il emmena beaucoup de textes d'inscriptions monumentales desquels il faisait le calque et la transcription en Chine et en Japon. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que le XVIIIe siècle, sur l'élan du collège des néophytes et des autres institutions du genre, il faudra rappeler aussi la propaganda fide et d'autres grandes institutions pour l'éducation, porte à une évolution assez importante dans laquelle les études orientales ont un poids assez grand. Par exemple, à Naples, le XVIIIe siècle voit la naissance du Collège des Chinois. Le Collège des Chinois avait été fondé en 1732 par ce personnage, Matteo Ripa. Matteo Ripa n'était pas un jésuite proprement, il était un missionnaire qui fut envoyé en Chine, où il passa 12 ans. Il rentra et il fonda ce collège. Ce collège va devenir ce qui va être ensuite l'université de Naples, l'Orientale, l'Institut Orientale, avant Regio Istituto, puis après la République Università. Le Collège des Chinois, au début, ne faisait qu'éduquer des Chinois. Il avait comme étudiants des Chinois, des jeunes Chinois qui avaient été emmenés de la Chine en Italie. Mais bientôt, il servit pour éduquer des Italiens à traiter avec les Chinois. Et en même temps, on commença à y étudier l'Indien, les langues indiennes, les Hindi, et plus tard, le Turc, l'Ottoman. Le roi, justement, Umberto I, transforma le collège en université. Ce changement coïncide ainsi avec un grand intérêt des Occidentaux pour les collections italiennes. Le cas de Barthélemy d'Herbelot est le plus fameux. Il était venu pour apprendre les langues orientales dans les ports de l'Italie. C'est une chose qui m'a toujours touché parce que...
Mais il n'est jamais allé en Orient, il n'a pas dépassé l'Italie.
Ouais. Il parlait mais en tout cas, c'est très intéressant parce qu'il fréquente Ferdinand de Médicis et qui lui demande de devenir son bibliothécaire, mais lui, il refuse parce qu'il a des autres engagements bien plus grands. C'était Colbert qu'il avait appelé en France.
Oui, oui.
Et aussi le cas de l'abbé Eusèbe Renaudot, qui accompagne le cardinal de Noailles au conclave à Rome, et mais qui ne réussira pas trop dans ses projets. Et c'était aussi parce qu'il était janséniste et un peu pas trop bien vu.
Oui, oui, c'est la période de la bulle unigénitus, etc. Donc finalement, il n'a pas pu être aussi bien reçu qu'il le souhaitait. Enfin, il a quand même ramené un certain nombre de manuscrits orientaux à Paris.
Qui sont à Paris, oui, parce qu'il y a un lien très fort
entre Florence,
Florence surtout. Oui. Il y a quand même un lien très fort entre la France et l'Italie, surtout dans ces déplacements de manuscrits. Je sais aussi des lancers, par exemple, il y avait eu. Et un bibliothécaire qui est très important pour l'histoire de la Bibliothèque Vaticane, quand même, est Giuseppe Simone Assemani, qui en réalité était un Libanais, il s'appelait Youssef Simani, qui avait été naturalisé italien, et qui est maronite, qui fonde et qui s'occupe des fonds orientaux de la Bibliothèque Vaticane et qui fait des achats incroyables pour l'époque. On parle de blocs de 2000 livres qui arrivent de l'Orient chaque fois, ainsi que documents précieux et d'autres matériaux. Il est envoyé par le pape en Égypte, en Syrie, pour faire la récolte de ces textes. Mais certainement celui qui mit un peu d'ordre dans tout ce, dans toutes ces collections éparpillées fut le baron Joseph von Hammerpurgstall, qui systématiquement renseigna les collègues orientalistes de l'époque, qui inclut Sylvestre de Sacy, avec lequel il avait une correspondance, des collections italiennes. Il écrivait des lettres, ces lettres fonde la base de cette mine de l'Orient qui donne une dimension très intéressante de toutes les collections italiennes qui vont de Bologne jusqu'à Naples, du nord au sud. Sur son travail se basera après Giuseppe Gabrielli, le grand bibliothécaire, qui va écrire un répertoire des textes orientaux italiens, les manoscritti e carte orientali dans les bibliothèques italiennes et negli archivi d'Italia. Que se passe-t-il quand l'Italie vient unifier? Ben, le Vatican sort de nos intérêts parce qu'il devient un État indépendant qui ne fait plus partie de l'Italie. Et pratiquement, aussi, sa collection devient une collection étrangère aux collections italiennes. Mais bien entendu, on peut la fréquenter, on peut y travailler, mais ce n'est plus, il n'y a plus une cohérence entre cette collection et les collections italiennes. L'Italie change complètement d'attitude avec les bibliothèques. 1870 est une époque de introduction aussi d'un fort laïcisme et de réforme. Toutes les institutions religieuses viennent fermer. Et jusqu'au concordat de Mussolini, qui vient signé par Mussolini et le pape, les fonds religieux arrivent dans les bibliothèques publiques et nationales italiennes, surtout une grande partie de ces fonds. Dans ce cadre, il faut dire que d'un côté, cette activité est connaturelle à la naissance d'un État italien, de la fondation d'une société nouvelle, mais aussi d'intentions colonisatrices de l'Italie. Par exemple, un grand intérêt se développe pour la Turquie, qui devient un objet assez important, formé par exemple les militaires qui vont travailler en Turquie. Donc les études orientalistes ont maintenant des nouveaux objets, des nouveaux objectifs. Ce n'est plus tant l'évangélisation, ce n'est plus tant les buts du début, mais ça devient le besoin de commencer une activité aussi militaire. Et en effet, la guerre de 1911, la guerre italo-turque, voit de nombreux interprètes italiens et turcs et arméniens surtout, parce que les Arméniens sont les premiers qui enseignent du turc, surtout à Naples, d'une façon systématique. Et ceci est très intéressant. Un travail récent de Madame Bossert explique très bien cet aspect. En même temps, il y a des gens qui prennent des positions, surtout quand le fascisme devient de plus en plus fort, et après 1924 devient pratiquement la dictature de Mussolini s'établit en Italie définitivement, mais il y a des penseurs indépendants, comme c'est le cas de Leone Caetani, qui fonde une fondation qui encore aujourd'hui existe dans l'Accademia dei Lincei, qui est très importante et qui est obligé à abandonner l'Italie en 1927. Il va mourir au Canada, même en une certaine pauvreté, mais qui a laissé une fondation très importante. Leone Caetani était un grand chercheur du monde de l'histoire de l'islam, et il avait fondé cette fondation pour pouvoir faire l'histoire des premières années de Muhammad. C'était 10 volumes, les annales de l'islam sont 10 volumes pour 10 années. C'était une histoire hyper détaillée de la vie du prophète et de ses successeurs. Mais en même temps, il avait des contacts avec tous les grands chercheurs et savants européens. Malheureusement, son destin est mal fini. Il a été chassé de l'Académie des Lincei. L'Académie des Lincei en Italie est un peu comme l'Académie de France en France, est une institution très prestigieuse. Et en même temps, des autres institutions sont nées, surtout à Rome. La première est l'Istituto per l'Oriente. L'Istituto per l'Oriente est né en réalité un an avant la marcha su Roma, c'est-à-dire ce qui déclenche le phénomène fasciste, mais il est fondé par des professeurs universitaires qui décident d'avoir une approche un peu différente à l'Orient par rapport au pouvoir politique aussi. Mais bientôt, elle verra inclure parmi les institutions du ministère des Affaires étrangères. L'Istituto Bernardiente ne manque pas toutefois de critiquer souvent les politiques italiennes, surtout là, c'est le seul institut, il y a une grande correspondance qui est préservée dans les archives, même si Nallino, Carlo Alfonso Nallino, qui en était un des fondateurs, était certainement fasciste, il critique très fortement l'attitude violente, par exemple, du général Graziani contre les Libyens et contre l'usage du gaz et l'usage de méthodes affreuses de la part contre les populations arabes. Il y a dans l'Istituto Bernardiente une relation très empathique avec le monde islamique qui vient aussi exploiter du côté fasciste des fois parce que Mussolini lui-même n'hésite pas à se déclarer l'épée de l'islam ou des choses comme ça. En même temps, et l'Istituto Bernardiente n'est pas trop bien vu de ce point de vue et donc vient fonder l'ISMEO, Istituto per il Medio e Estremo Oriente, qui va devenir plus tard Istituto Italiano per l'Africa e l'Estremo Oriente, avec la fusion avec une autre institution qui était l'Istituto di Studi Africani. L'ISMEO est fondé par le ministre de l'éducation publique, Giovanni Gentile, grand philosophe ennemi de Benedetto Croce et grand souteneur du fascisme. L'ISMEO s'adresse surtout à l'Extrême-Orient et au Tibet. Et les deux institutions se balancent un peu les intérêts. Surtout l'ISMEO se consacre beaucoup à l'archéologie et l'Istituto per l'Oriente à l'époque contemporaine dans cette L'Istituto per l'Oriente publie un bulletin et préserve encore aujourd'hui une des collections plus intéressantes de journaux des années 20 jusqu'aux années 70, des premiers journaux saoudites, des premiers journaux des journaux égyptiens, des journaux iraniens, des journaux turcs. C'est une collection très riche qui malheureusement est mal préservée pour des raisons d'espace et d'argent, mais qui aujourd'hui mériterait vraiment d'être étudiée attentivement parce qu'il y a des choses qui sont disparues partout. Dans l'autre cas, dans le cas de l'Istituto per l'Oriente a une bibliothèque qui inclut de nombreux ouvrages et qui inclut des différents fonds qui ont été des donations surtout de Ettore Rossi, le premier turcologue d'une certaine valeur italienne, et le fondo de Angelo San Marco qui est très intéressant pour ce qui est le canal de Suez et l'origine et l'histoire du canal de Suez. C'est un grand éditeur et publie 4 journaux et justement la série S Catalogorum qui vient de faire avec le CNRS. Donc c'est une institution qui a survécu malgré tout à tous ces événements et aujourd'hui a naturellement des bien différentes adresses politiques et idéologiques où on n'en a peut-être pas, ce qui est même mieux, quand même qui a une forte activité scientifique. Tandis que l'Istituto per il Medio Estremo Oriente, qui a été géré au début par Giuseppe Tucci, qui était un grand tibétologue, après cette alliance avec l'Istituto Italiano Italo-Africano, a eu un grand président, Gerardo Gnoli, qui l'a porté, un iranisant qui a porté cette institution à un plus haut niveau, mais qui a fait des fouilles qui étaient toujours symétriques à des fouilles françaises. Par exemple, Schlumberger fouillait à l'Ashkari Bazar, les Italiens fouillaient à Ghazni. Il y avait toujours une espèce de miroir de la France dans les activités italiennes et vice-versa. Mais malheureusement, en 2011, l'Instituto et l'ISMEO a déclaré faillite. Faillite, ça veut dire que même la bibliothèque a été risquée d'être vendue, ce qui n'était pas possible parce que des fonctionnaires de l'État se sont révoltés contre ce fait et ont empêché que ceci advienne. Mais ceci dit aussi quel est l'intérêt politique pour nos bibliothèques de la part de notre État, quel a été, surtout dans des époques non quasiment en 2011, vous savez qui gouvernait l'Italie, qui étaient les ministres qui ont permis ce désastre, c'est quelque chose qui mérite vraiment aujourd'hui d'être investigué plus sérieusement. Et aujourd'hui, il y a des tentatives de le faire renaître, mais qui sont très dures. Je rappelle que l'ISMEO, à différence de l'Istituto Bell'Oriente, avait 60 dépendants, donc était un centre qui payait 60 salaires, et ceci explique un peu aussi la faillite. Mais d'un autre côté, il fallait quand même, il n'y a eu aucune volonté de réforme et de possibilité de réétablir cet institut. Sa bibliothèque, qui est parmi les plus importantes, surtout pour les études tibétologues et indologues, qui a de nombreux manuscrits, aussi en arabe, risque, est maintenant tout emballé, et risque d'être jeté dans une cave de la Bibliothèque nationale, peut-être dans le futur, ce qu'on souhaite absolument pas. En même temps, il faudra rappeler les bibliothèques de l'université. Je m'arrête tout brièvement sur la bibliothèque de l'université de Rome. La bibliothèque de l'université de Rome est née en 1905, donc dans une époque assez récente. Et là, une fois, il y avait un département d'études orientales qui est devenu une faculté, puis est devenu un institut. Mais en tout cas, aussi là, il y a eu malheureusement une dispersion de la bibliothèque, dispersion soit en termes géographiques que en termes de matière. Par exemple, on a partagé l'archéologie d'un côté, les langues de l'autre, ce qui a porté à vraiment un grand problème de cette bibliothèque, qui va être probablement rétablie dans un nouveau bâtiment qu'ils sont en train d'acheter, qui va être à nouveau mise en œuvre, à nouveau. Mais on ne sait pas, sincèrement, c'est le destin de cette institution est un peu précaire. Tandis que la Bibliothèque nationale de Rome a ses collections et fait un grand effort pour les sauver. Alors là, il faut dire qu'en Italie compte beaucoup la capacité des individuels, malheureusement. Je dis ça malheureusement parce que c'est un système qui, des fois, ne tient pas compte des richesses qu'il y a. Par exemple, la richesse de la Bibliothèque nationale est maintenant très bien valorisée grâce à certains chercheurs qui ont fait une petite section orientale qui, quand même, surtout pour le chinois, le japonais et l'arabe, a presque 100 000 textes imprimés, même très anciens. Il faudra rappeler la figure d'un très grand bibliothécaire qui s'appelait Giuliano Bonazzi, qui dans les années 30-40 envoya, par exemple, Carlo Alfonso Nalino en Égypte pour acheter ouvrages de tous les genres différents pour constituer une nouvelle bibliothèque. Donc, vous voyez qu'il y a des fois des personnages très clairvoyants qui fondent des institutions. Après la chute du mur de Berlin, tous les livres qui appartenaient à l'association Italia Urs, qui était une énorme bibliothèque de livres soviétiques surtout, sont passés à la Bibliothèque nationale et d'autres fonds particuliers sont arrivés. Mais à Rome, il faudra dire qu'il y a vraiment un nombre d'institutions de lesquelles je ne veux pas vous parler parce qu'on finirait jamais. On pourrait parler de la bibliothèque Casanatense qui a des fonds nombreux imprimés et manuscrits orientaux, la bibliothèque grégorienne, la plus grande, qui est une bibliothèque jésuite en fait, où il y a la plus grande collection de livres sur le communisme au monde. C'est quelque chose qui est très intéressant. La bibliothèque orbaniane avec tous les fonds de la propagande fine, et j'oublie là l'Institut d'études orientales pontifiques, qui est Pontificio Istituto Orientale, ou encore le Pontificio Istituto di Studi Arabo-Islamici. Je ne veux pas vous massacrer avec tous ces trucs, parce que j'aime bien parler plutôt de l'Université Orientale de Naples. L'Université Orientale, parce que c'est où je travaille, donc je l'aime particulièrement. À part le fait que c'est la continuation du Collège des Chinois et qu'il y a toute cette histoire, qui est une histoire très longue, et on préserve toute la documentation depuis le XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, y inclut des grands fonds de cartographie, surtout chinoise, qui sont très très importants pour et très inédits, en grande partie inédits. Comme vous savez, on y enseigne, non seulement c'est un peu différent de l'INALCO, on enseigne des langues aussi européennes, il y en a 22 langues européennes, 14 langues asiatiques et 9 langues africaines. Parmi les langues européennes, on considère aussi les langues slaves, là on peut ouvrir une discussion qui ne se termine jamais, mais c'est un centre qui naît pour les langues surtout, mais qui a beaucoup d'études aussi historiques, sociologiques, etc. La bibliothèque, il y a 3 grandes bibliothèques à l'Institut, elles sont avec un seul système de catalogation et un seul catalogue, en fait, qui est mis en ligne. C'est une section est dans le palais Corigliano. Corigliano, c'est la plus grande, c'est la bibliothèque intitulée à Monsieur Maurizio Taddei, qui était un fameux archéologue et qui a 300 000 livres. Certainement, quand on pense à la Boulac, c'est peu de choses, mais quand même, c'est une collection très importante pour la rareté de ses livres et surtout beaucoup de périodiques. Il y a 300 manuscrits. 400 même manuscrits orientaux qui sont préservés dans la collection, et 2 autres collections, une al Duomo qui a 280 000 livres, et l'autre qui s'occupe surtout des langues occidentales, et l'autre sur les sciences politiques, la philosophie et les études américaines. Et toutes ces 300 se basent sur le système OPAC-SEBINA, ça on peut en parler, c'est le système qui est adopté pour la catalogation en général dans certaines des institutions, mais on va voir que en Italie il y a 3 systèmes différents de catalogation, ce qui rend les choses des fois très difficiles parce qu'ils ne sont pas interconnectés les uns avec les autres et elles présentent beaucoup de problèmes. Et puis, enfin, il y a la Bibliothèque nationale de Naples, qui est une bibliothèque qui a des très importants fonds orientaux, qu'on découvre toujours plus, de plus en plus, mais qui ont été très mal catalogués. Angelo Michele Piemontese a fait le catalogue des manuscrits persans dans son grand catalogue des manuscrits persans des bibliothèques italiennes, et Monsieur Luca Berardi est en train de terminer un grand catalogue sur les manuscrits ottomans qui sont préservés dans tout le sud de l'Italie. Et il utilise aussi, lui. Mais à part ça, il y a un grand catalogue de manuscrits arméniens en Italie. Il y a 2 ou 3 autres catalogues, mais c'est un effort qui doit être tout complètement fait. C'est heureusement, on a catalogué beaucoup les manuscrits de l'Ismer, surtout les manuscrits indiens et une partie de ceux qui sont tibétains. Voilà quelques questions que je vous pose après ce grand fresque historique. C'est un peu pourquoi nous souffrons beaucoup d'un manque d'un système universel de catalogation. Nous avons 3 systèmes, un s'appelle système bibliothécaire national SBN, qui contraste avec les uns avec les autres des fois, Et ceci nous présente beaucoup de problèmes, surtout pour les étudiants, pour le repérage des ouvrages. En plus, bien qu'on a fait un catalogue unitaire de tous les périodiques qui a été publié, même imprimé en livre et qui vient mis à jour continuellement, aussi là, nous avons une idée encore partielle de tout ce qui est le matériel existant. Et ceci est d'autant plus difficile parce que vraiment ce qui a payé plus cher en Italie la crise, surtout économique la plus récente, mais aussi les précédentes, c'était surtout sur les biens, ce qu'on appelle beni culturali en Italie, les biens culturels, je ne sais pas si en français il y a la même terminologie bureaucratique, et surtout les bibliothèques. Les bibliothèques ont payé très très cher. Il faut dire que, par exemple, nous avions les meilleurs restaurateurs, peut-être, je ne veux pas exagérer, du monde, mais il y avait une institution qui était l'Institut de la pathologie du livre, qui est un institut très prestigieux et qui servait toutes les institutions gratuitement pour justement maintenir toutes ces grandes collections, et cet institut n'est plus capable de fournir ce service en ce moment. Bon, et c'est bien évident qu'il ne faut pas s'arracher les vestes, il faut travailler. L'idée qu'on pense beaucoup plus, c'est de se rattacher toujours à l'Europe, mais c'est pas une Europe imaginaire, c'est surtout au projet européen. Et justement, par exemple, ma présence dans la collection, dans le comité scientifique, avoir l'honneur d'être dans le comité scientifique de la Boulac, me permet de voir aussi comment réagissent et les problèmes surtout d'une bureaucratie, parce que je pense que c'est pas tant un problème d'argent quand un problème de bureaucratie qui paralyse l'argent, qui le rend ingérable. Je voudrais aussi dire une chose. Récemment, nous avons des grands problèmes avec l'immigration africaine en particulier. Comme vous le voyez dans ces jours-là, c'est une question très actuelle. Et il y a beaucoup de bibliothèques qui sont en train de faire un effort pour s'adapter à la situation et pour fournir des livres aux nouveaux arrivés. C'est une chose très intéressante qui nous a engagés personnellement. Nous formons, dans nos cours, nous formons des personnes qui s'occupent aussi de ça. Et surtout, par exemple, dans des pays, à Prato, qui est une ville de la Toscane, qui a pratiquement le 40% des habitants qui sont chinois désormais, la bibliothèque gère un fonds chinois colossal, mais ce n'est plus les fonds qui nous intéressaient depuis Grégoire XIII, mais c'est des fonds complètement différents, c'est des livres, des romans, généralement comme ça. Et ils ont trouvé un nouveau système de catalogage par photographie qui est très intéressant et qui sert comme modèle pour toutes ces bibliothèques qui veulent offrir un nouveau service aussi sur cet aspect social qui est très douloureux et qui peut servir vraiment beaucoup aussi à l'intégration avec. Et c'est la chose qui est intéressante, c'est que cette fois-ci, c'est un peu un travail à l'envers qu'il faut faire pour former les nouveaux bibliothécaires. Voilà, les réseaux européens. Voilà, pour nous, la Boulac est un exemple. Et je peux dire que je suis toujours plus convaincu que plus on fait de projets communs, et plus on va avoir des résultats. Et d'un point de vue très égoïste, je suis content que l'Italie soit fait partie aussi qu'un représentant italien puisse être parti du comité scientifique de la Boulac. Merci.
Voilà. Alors, merci beaucoup, Michele, pour ce tableau extrêmement brillant, extrêmement complet que vous avez dressé. Je pense que ça suscite beaucoup de questions, d'interrogations, de demandes de précision. Et je ne sais pas, le micro va circuler dans la salle si quelqu'un veut poser des questions.
Une première question concernant les fonds slaves que vous avez cités rapidement. Donc, comme à l'université napolitaine, ici, les fonds slaves font partie d'une conception très large de l'Orient. C'est un cas général en Italie ou c'est une particularité que nous partageons les Napolitains et ici à Paris ?
Non. En Italie, il y a au moins un autre exemple très important, c'est Venise, qui a une institution qui est très ressemblante à celle de Naples, bien qu'elle n'a pas l'histoire de celle de Naples. Donc, je pense que l'histoire a assez un poids aussi dans les choix, dans les procédures universitaires quand même. Et l'université de Venise est une université qui est partagée dans des départements très séparés entre eux. L'Extrême-Orient est d'un côté, l'Inde de l'autre. Chez nous, l'Asie, l'Afrique et la Méditerranée sont rassemblées, même avec les études classiques, par exemple. Et c'est ça qui est assez originel de l'oriental et qui la rend un peu... nous avons, par exemple, un accord avec l'INALCO, qui est très productif. On a beaucoup d'échanges d'étudiants chaque année, par exemple... Moi, cette année, j'ai eu 3 étudiants de l'INALCO. Ça s'est très bien passé parce qu'on a des programmes qui se ressemblent assez comme ça. Mais ce qui fait un peu la particularité de l'oriental, c'est aussi d'avoir en même temps des études occidentales, véritables, une section occidentale qui est survie. Des fois, on a un peu de conflit entre orientaux et occidentaux, mais c'est naturel, ça, dans les jeux des universités. Tandis qu'à Venise, ce sont des institutions plutôt liées à des départements d'études. Mais aussi, eux, ils vont être obligés, ou ils ont déjà été en partie obligés, à unifier beaucoup. Parce que aussi, nous avons un ministère qui déclare toujours l'indépendance des universités, mais qui, enfin, veut toujours contrôler, surtout par le haut, toutes nos activités. Donc, il nous impose des règles assez sévères sur ça.
D'autres questions ? Franzane.
Donc, tu nous as parlé beaucoup des collections historiques, les manuscrits, des bibliothèques de Naples, de Vatican, de Rome. Mais est-ce qu'actuellement, et puis tu nous as parlé aussi des crises qui touchent les bibliothèques, mais est-ce qu'il y a un accroissement des collections constantes vis-à-vis du nombre des étudiants que vous avez ? J'imagine que quand même en nombre d'étudiants en études arabes ou iraniennes, il y a quand même une forte demande à Naples, en Italie. Est-ce que les collections grandissent aussi au jour le jour ? Il y a un budget d'acquisition intéressant ? Comment ça se passe pour l'actuel ?
Donc à Naples, les collections grandissent malgré tout. Grandissent non seulement grâce aux donations, parce qu'on a continuellement des donations. On a même fondé un musée maintenant qui a été rempli de donations. Et on ne sait pas où mettre tous les trucs qui arrivent chaque semaine. Non, c'est très intéressant. Il y a quand même une très grande volonté de maintenir tout ça. C'est un certain enthousiasme même. Mais en même temps, on a des grandes difficultés à maintenir par exemple, les périodiques. C'est un grand problème. On a fait tous des contrats avec JSTOR, avec les grandes institutions comme ça, EBSCO, tout ça, pour avoir le plus possible en ligne. Mais c'est aussi dommage de perdre la continuité des collections. Donc, dans beaucoup de cas, on travaille beaucoup sur les échanges libraires, les échanges pour chercher de maintenir D'autre part, tous ces journaux qu'on publie, on les publie aussi pour faire des échanges. C'est une des prérogatives de ces publications, c'est de nous permettre d'avoir une... Évidemment, le premier but, c'est celui de publier des choses scientifiques d'un certain niveau, mais quand même, aussi, il y a cet aspect qui est très important. De l'autre côté, le budget pour les achats, surtout des livres, est très réduit. Et on a des grands problèmes avec les grands éditeurs, comme vous savez, Brill ou Peters, ou tout ça, sont très très chers, effectivement. Et nous posent des problèmes très grands. Il faut faire des choix, on fait des grandes réunions pour décider si acheter ça aussi ou ça. Je peux dire que la semaine dernière, on a éliminé tous les journaux concernant les bandes dessinées chinoises parce que ils étaient devenus trop chers. Mais on avait une grande collection et c'est dommage aussi ça parce que ce sont des objets d'études qui sont très importants, surtout concernant l'actualité. Oui. Et puis, ce qui pour nous est très important, et moi j'aime bien la Boulac pour cela, c'est être toujours à jour avec les publications, les textes plus récents, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que ça dépend beaucoup aussi des chaires, des enseignants, ce qui est une tradition, d'autre part. Hein. S'il y a un bon professeur qui s'occupe beaucoup, il sait aussi faire les achats, parce que la bibliothèque est gérée par des spécialistes, surtout de bibliothéconomie, bien que maintenant on forme de plus en plus des bibliothécaires orientalistes, ce qui est une question qui nous intéresse beaucoup aussi dans l'Institut de la pathologie del libro, de mettre vraiment une section orientale pour la formation des bibliothécaires.
Bonjour.
Alors, pour en savoir plus, je peux vous renvoyer à... il y a une dame qui s'appelle Marina Battaglini. Je voulais mettre en réalité un peu d'adresse mail, mais je peux vous les envoyer si vous me donnez du temps. C'est des gens qui sont en train de travailler beaucoup sur ça. Sur ce sujet. Par exemple, elle était une sinologue, et elle travaille à la Bibliothèque nationale et elle travaille à la formation des bibliothécaires. Il y a aussi, et travaille soit à la formation des bibliothécaires, soit à la restauration, parce que les textes chinois ont évidemment des nécessités particulières. Mais nous avons aussi à Naples, il y a une autre personne qui s'occupe de ça, qui s'appelle Muradja Dosson, qui est descendante du fameux Muradja Dosson, et qui s'occupe justement aussi de la... mais je vais vous donner les adresses de mail, la poste, parce qu'on peut correspondre avec eux et elles, parce que c'est des dames, et... Elles sont très, très brillantes, surtout dans cet aspect pédagogique qui est très important.
Pour les manuscrits, et notamment les manuscrits iraniens, est-ce qu'il y a une politique de numérisation déjà des catalogues et
Les manuscrits, iraniens
Principalement iraniens. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est les iraniens.
Et une politique de numérisation. Voilà une punctum dolens. Alors... La numérisation est en train de se faire. Le Vatican, en tout ce discours que j'ai fait de l'argent, hein, le Vatican est plein d'argent et fait travail comme beaucoup mieux que les bibliothèques italiennes et fait la numérisation des manuscrits. Dans le cas de la Bibliothèque nationale de Rome, par exemple, la numérisation se fait pour l'instant surtout pour les imprimés occidentaux. Et parce qu'il faut justement avoir des experts pour faire la numérisation des textes orientaux. Il y a un grand retard de ce point de vue qui est assez douloureux. D'autre part, Nous avions cherché de faire un projet déjà il y a une dizaine d'années avec l'Institut du Monde Arabe pour la numérisation. C'était un projet européen, mais qui n'a pas marché à l'époque. Mais on veut repartir avec ça, surtout pour les collections universitaires et pour les manuscrits qui sont préservés dans les universités. Ah, sur les frères Vecchietti.
Oh. Après, oui.
Ok, bon, si, bonsoir. Eh ben, je voulais savoir quelque chose des ouvrages de la propagande FIDE, et notamment ceux qui sont partis à l'époque de Napoléon et qui ont été importés en France, etc. Ils sont revenus et où? Et il m'arrive de chercher des ouvrages qui est noté qui seraient à la propagande FIDE, mais effectivement, après, je trouve que ce serait au Vatican, et après, vous parlez de l'Urbaniana, je suis perdue. Donc, voilà.
Si alors, ça dépend des ouvrages. Si c'est des documents,
je parle des dictionnaires.
Si c'est les matériaux chinois, c'est à l'Urbaniana, tout ça tout est préservé là-bas. Bien que quelque chose est encore au Collegio della Propaganda Fide, qui a changé de nom, maintenant c'est le Collegio per l'Evangelizzazione. Bon, c'est la même chose quand même. Il a un nom très long et. Moi, j'ai déjà un problème avec les acronymes, mais avec le propaganda film, mais la grande partie à la Bibliothèque Urbaniana, surtout des textes chinois. Et pour toute la dispersion napoléonique, il faudrait faire une conférence exprès, parce que c'est une histoire très longue. Et beaucoup de manuscrits, par exemple, ont été emportés de l'Académie de Lincei à Montpellier. Il y en avait même.
Je sais que j'en ai vu un ou deux à la Bibliothèque nationale de Paris. Ils se reconnaissent par les reliures.
Qui sont, c'est une histoire qui est fascinante parce que beaucoup sont aussi retournés. Il y en a quelqu'un qui. Les Fondo Barberini Orientale, par exemple, il était parti pour la. Qui a non seulement beaucoup de choses persanes, mais aussi japonaises et chinoises, justement. C'est un chapitre assez intéressant. Oui.
Justement, c'est ce qui est retourné qui est parfois plus difficile à retrouver. Où
Oui, où ça dépend quand c'est retourné, parce que si c'est retourné tout de suite, ce qui est la majorité des cas, c'est retourné, par exemple, dans le Vatican, dans la Bibliothèque Vaticane. Mais dans d'autres cas, quand les choses sont retournées ensuite, par exemple, c'est aussi le cas de nombreuses collections qui avaient été prises par les Autrichiens et qui sont retournées après. Le même Fondo Rossiano de la Vaticana a été retourné après être passé par l'Autriche en Italie. C'est toute une question très compliquée, l'histoire de ces voyages de bibliothèques. Et puis, quand ils retournent, souvent, il y a des choses en plus et des choses en moins.
Merci.
Oui, c'était juste pour avoir un petit développement sur les frères Vecchietti et puis l'histoire de la typographie médicienne.
Alors, les frères Vecchietti sont des personnages vraiment incroyables. C'était deux Calabrais en origine. Il était de Cosenza, d'une petite ville de Calabre. Petite, maintenant c'est une province assez importante, mais à l'époque c'était un petit centre. Et c'était des aventuriers plutôt que des grands savants intéressés aussi par surtout les études bibliques. Monsieur Walter Fischel avait étudié toute l'histoire aussi
recherche de la Bible.
De la Bible, ouais. Surtout, oui. Et c'était pour cela qu'il voyageait Au début, ils avaient été envoyés en Égypte. Et c'est là que le Shahnameh que vous avez vu vient de l'Égypte, ne vient pas du Moyen-Orient, parce qu'il fut acquis par eux en Égypte. Et eux, ils fournissaient justement les manuscrits à Giovan Battista Raimondi. Aussi là, il y a tout un problème de budget, d'argent pour les achats de ces manuscrits, parce que les frères Vecchietti faisaient aussi un peu de business avec ces manuscrits. C'était pas seulement une chose d'intérêt culturel. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, ce texte que nous avons vu sur les psaumes de David, ils avaient été édités par une commission que les frères Vecchietti avaient fondée à Hormuz, dans le golfe de Hormuz, justement. Et dans l'île d'Hormuz, ils avaient fait une commission qui était formée par un rabbi de l'art du centre de l'Iran, un persan, peut-être musulman, Khorji, oui, et puis un des frères Vecchietti. Et il faisait l'édition critique des textes en prenant des textes. Ce qui est très intéressant de ces manuscrits, c'est les colophons qui rapportent toute l'histoire de cette édition critique. Mais en même temps, les frères Vecchietti ont rapporté de nombreux autres ouvrages. Ils ont eu, c'était des gens un peu bizarres qui aussi très, un des frères Vecchietti, par exemple, s'est battu en Iran avec quelqu'un qui lui a lancé une flèche contre une jambe, il est resté. L'autre, il a été fait prisonnier à Tunis par des pirates. Et c'était des gens un peu aussi bizarres de ce point de vue-là, mais aussi leur destin qui est très différent de celui de Pietro della Valle, qui était quelqu'un qui avait un savoir-faire beaucoup plus grand et qui avait surtout derrière une tradition de noblesse romaine et tout à fait différent, disons. Ils ont une histoire qui est aussi très amusante. Aussi leur rapport avec le roi d'Espagne, par exemple, ils avaient une correspondance qui ne recevait quelquefois pas de réponse, et surtout dans la majorité des cas. Mais ils avaient aussi travaillé pour la, si je ne me trompe pas, c'était la conversion de l'Église.
Oui, il y a eu une négociation. Avec le patriarcat copte en Égypte.
En Égypte, c'était.
Et l'autre chose aussi que Michele n'a pas eu le temps encore de mentionner, c'est qu'ils ont été jusqu'en Inde.
Ah oui.
Ils ont été à Agra.
À la cour de Akbar.
Et qu'il y a un certain nombre de manuscrits qu'ils ont rapportés d'Inde, où ils avaient rencontré les jésuites, etc. Il y a toute une histoire. Enfin, c'est. Mais le problème des Vecchietti, c'est qu'on n'a pas leur biographie complète. Il reste encore des choses à découvrir. Il reste encore des manuscrits à retrouver. Il y en a encore, par exemple, à Naples, on a vu qu'il y avait des manuscrits qui venaient d'eux, qui n'avaient pas été repérés. Et bon, c'est très intéressant. Et il y a eu une exposition à Florence.
Ah oui,
il faut en parler. Oui,
c'est... Il s'appelait La Via delle Lettere. C'était sur la famille de Giovan Battista Raimondi, surtout. Et il y a eu une exposition, justement, sur l'imprimerie Medicea, dans laquelle, par exemple, on a vu les épreuves qu'on faisait dans ces. Et il y a toute une collection d'épreuves qui est survécue et qui est très bien préservée. Ils faisaient des épreuves avec des couleurs différentes. Ils avaient une méthodologie qui était assez moderne à leur façon, mais qui était un peu utopique peut-être. Surtout, ce qui est intéressant, c'est le rejet complet du côté oriental de ces livres imprimés qui n'ont jamais été acceptés. Quand même, il y en a beaucoup dans le marché et maintenant ils sont très appréciés par les émirs du Qatar et tout ça, qui aiment bien les acheter pour leur collection privée.
Oui, je crois que le seul qui semble avoir abouti en Orient à l'époque se trouve maintenant à la Bibliothèque centrale de l'Université Téhéran. C'est l'édition d'Euclide, qui visiblement était arrivée en Iran au XVIIe siècle. Mais c'est le seul Il est conservé précieusement à la réserve là-bas. Il semblerait qu'il ait été acquis au XVIIe siècle en Iran. Mais c'est vraiment une exception.
Il y a aussi des autres... oui, c'est une exception. Les autres choses sont dans le marché, mais il faut voir d'où elles proviennent. Ouais. Parce que, ouais. Bon. Mais quand même, cette exposition a été très intéressante aussi, expliquer l'importance de la relation d'Herbelot avec soit Ferdinand, soit... comment ça va, Léopold Médicis, qui étaient deux souverains qui ont eu... qui ont fait de nombreuses tentatives d'avoir des relations avec ces bibliothécaires français qui étaient considérés, qui étaient très appréciés. Parce que là, il y a tout un côté plus tard sur les illuministes et le rapport avec l'Orient qu'on n'a pas pu traiter, mais quand même, il y a aussi cet aspect qui est très important et qui fait renaître un peu les intérêts pour la bibliothèque de Giovan Battista Raimondi, qui elle est dispersée parce qu'une partie elle est à la bibliothèque Laurentiana, mais encore d'autres parties sont par exemple au Vatican, il y en a encore en France,
il y en a à Naples,
il y en a à Naples, oui.
D'autres questions?
Du coup, je profite que j'ai le micro pour poser une question également. Pour revenir sur des aspects plus contemporains, vous avez, en parlant de la question des migrations récentes, parlé d'une bibliothèque qui est cataloguée en prenant des photographies. Est-ce
oui.
que vous pourriez nous en dire plus?
Donc, ils ont élaboré un système de database qui peut mettre les photographies des titres, surtout en chinois, hein, parce que là, c'est une question... leur public, c'est un public chinois. Ils ont pratiquement... tout le public, le 40% de la population est chinoise, donc grande partie du public est chinois. Et ils ont inventé un système avec lequel ils font des photos qui viennent ranger... Je crois, je suis pas sûr de ce point de vue, mais automatiquement dans un database qui permet d'avoir le catalogue, en fait, sur les photographies et non pas sur les translittérations des textes. Les photographies des titres en chinois qui viennent transformer en caractère... parce que là, l'Italie avait adopté le pinyin pour tout le chinois depuis... des époques assez reculées depuis, mais il y a eu pas mal de problèmes parce que beaucoup d'institutions ont eu des problèmes à abandonner le Weijiao, c'est tout le vieux système qu'il y avait en avance. Et c'est bizarre que cette nouvelle... on cherche maintenant de faire aussi les autres titres en caractère, mais c'est une bataille qui va être... je pense assez longue parce qu'il y a beaucoup de résistance de faire les titres en arabe, en persan, dans les langues, dans les caractères originaux, comme on fait aussi en France. J'ai vu qu'il y a, c'est assez utilisé comme système, celui de mettre les titres en lettres, en alphabet.
Et pas en translittération.
Mais il y a aussi la
translittération. Oui,
oui, non, de mettre les deux, oui. C'est ça, un peu, c'est là. Mais ce système a été vraiment beaucoup... Il a été très étudié, ce système de la ville de Prato. Il mérite une attention particulière parce que ça veut dire aussi... montre un changement de la société et aussi de notre travail comme chercheurs pour former des gens d'une façon adéquate pour servir aussi à ses buts, à ses objectifs.
Bonjour, vous avez mentionné la question de migration, mais en même temps, on peut voir qu'est-ce qui se passe en Syrie, l'Irak et en Libye. Par exemple, ils ont brûlé la Bibliothèque nationale en Moussel. Ouais. Ils ont détruit d'autres villes aussi. Est-ce que vous avez des projets ou avec l'Union européenne pour faire quelque
chose? Il y a un grand projet de restauration des monuments en ce moment à l'ICROM. Vous savez qu'est-ce que c'est l'ICROM? C'est surtout pour la grande mosquée de Dama qui a été centrée par une fusée. Ça, je sais parce que j'ai entendu il y a une semaine une conférence sur ce sujet. Et il y a un grand projet pour la restauration des mosaïques qui, par ailleurs, avaient été déjà restaurées abondamment dans le passé. Mais je ne sais pas sincèrement pour les livres. Je sais que il y a des spécialistes italiens qui ont travaillé là-bas, mais je ne sais pas vous dire sincèrement. Des restaurateurs surtout, oui. Mais en tout cas, en ce moment, c'est des pays assez un peu difficiles aussi à fréquenter pour faire des restaurations. Ça peut être un peu compliqué en ce moment.
Oui, c'est vrai, mais au sud d'Irak, ils cherchent en fait des gens...
Non, sud d'Irak et Kurdistan, il y a une grande présence de... Surtout en ce moment d'archéologues et de personnes spécialisées. Par exemple, dans l'organisation de nombreuses collections numismatiques qui ont été trouvées au Kurdistan, à Irbil, dans la région, et puis dans d'autres parties. Mais il y a une grande attention par les gouvernements kurdes qui a une relation avec le vieil Izmir et maintenant avec l'oriental sur ces sujets. Malheureusement aussi, la chute de l'Izmir a comporté des complications dans ces relations.
Oui, d'autres questions?
Juste une question plutôt pratique, c'est sur... Est-ce qu'on peut accéder facilement à tous ces fonds qui sont des bibliothèques religieuses, disons, la bibliothèque grégorienne ou tout simplement la bibliothèque vaticane? Comment on peut y accéder, en fait? Merci.
Alors, la bibliothèque vaticane a un catalogue pour elle-même. Et c'est un catalogue qui est très... efficace, un peu difficile peut-être à y accéder de dehors de la bibliothèque vaticane, mais quand on y réussit, ça, c'est très bien fait et on a beaucoup de choses. Là, la bibliothèque grégorienne a un très bon catalogue online aussi. Sincèrement, l'Urbanian, je pense qu'il y a un très bon catalogue. Mais souvent, c'est des catalogues qui, dans le cas des autres institutions, le PISAI, par exemple, et le PIO, le Pontificio Istituto Orientale, c'est des catalogues qui sont là-bas. Et on peut les utiliser seulement là-bas. Ils ne sont pas unifiés, ce qui est un problème, comme toujours, parce que il faut toutes les fois... voir dans tous les lieux s'il y a les matériaux où ils sont disposés. Disons que nous avons une certaine habitude à le faire et donc on les trouve assez facilement. Et que le Vatican donne quand même dans son catalogue beaucoup d'indications aussi sur les autres institutions religieuses. Oui.
Il y a une question...
Bonsoir, est-ce que vous pourriez préciser la composition du fonds africain à l'Orientale?
À l'Orientale, oui. Alors, le fonds africain, il est composé, vous parlez de manuscrits ou de tous les imprimés?
Le tout, en général.
Alors, il est composé surtout par des collections éthiopiennes, amharique, hausa, gèze, qui sont dans une partie à part de la collection. Nous avons deux étages dans le bâtiment et cette partie est liée aussi aux études arabes en général. Nous avons quand même La collection de l'Oriental a aussi différents manuscrits. Une collection fut emmenée par M. Sarnelli, qui était un médecin qui travaillait en Égypte et au Soudan. Et une autre collection sont des collections qui ont été emmenées par des Éthiopes, on peut dire éthiopisants, non, oui, éthiopisants du passé. Mais l'autre grande collection est à l'Accademia dei Lincei, où il y a le grand fonds Conti Rossini. Conti Rossini était un des plus grands spécialistes de l'Éthiopie. Et c'est surtout ça, on a très peu de choses, disons, sur l'Afrique soi-disant subsaharienne. Quelque chose est présent, mais pas beaucoup. Pardon. La collection dans le Vatican aussi, il y a une grande collection éthiopienne, comme je vous l'ai dit, qui a une histoire très ancienne et qui s'est accrue avec toutes les activités des missionnaires. Et puis, bon, je pense que c'est les grandes collections, c'est celles-ci, c'est les trois que je vous ai mentionnées.
Puis l'Urbaniana pour
la l'Urbaniana, oui, bien entendu. Pour les jésuites.
Oui, et pour l'Afrique.
Je crois. Oui.
D'autres questions?
Merci beaucoup. Merci beaucoup à Michele qui nous a éclairé beaucoup sur ce paysage complexe mais très, très attrayant des bibliothèques italiennes. Et ça nous incitera à tous à aller en visiter les fonds. Avant de terminer, je voudrais vous inviter à venir à l'exposition qui va s'ouvrir à la Bulac le 15 juin et qui va être ouverte jusqu'au 8 août. Et c'est une exposition sur l'impression arabe en France, la Typographia Arabica. Merci beaucoup.